nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Hervé Joubert Laurencin, qui vient de sortir une biographie massive et c'est extrêmement riche en références de Pier Paolo Pasolini, biographie qui s'appelle Le Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste, et qui est paru chez l'excellent éditeur Macula. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, je vous propose que vous nous exposiez, vu que c'est très très dense et très riche en références, peut-être l'apport de votre livre par rapport aux biographies ou vos travaux antérieurs, enfin, on pourrait dire ce qu'apporte au lecteur français cette nouvelle somme, parce qu'il s'agit vraiment d'une somme, c'est un travail qui va très au fond et qui est très vif et qui est mené avec beaucoup de passion, et on ressent cette passion en lisant et c'est très très agréable. Et donc le premier chapitre, si j'ai compris, c'est pratiquement une approche inédite en français, c'est le Pasolini écrivain. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du Pasolini écrivain ?
Ah oui, alors là, toute la première partie, oui. Oui, je pensais même au préambule, parce que finalement, ça commence par un préambule qui, lui, est sans doute aussi original en français, comme je le dis, original. Il l'a été pour moi aussi, donc ce qui est quand même intéressant dans la recherche, c'est qu'on ne s'ennuie pas trop, même personnellement. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, de découverte, ça pousse à écrire à nouveau, quoi. Donc là, c'est le préambule, c'est la découverte de cette relation avec Walter Benjamin, qui est quand même géniale pour moi. C'est un truc qui est un peu tombé du ciel, parce que ça m'ennuyait tellement d'entendre ressasser toujours... D'un côté, il y a Benjamin, de l'autre côté, il y a Pasolini. Les gens essayent de faire une relation entre les deux, ce qui est tout à fait légitime, hein, mais en disant que c'est évident alors que ça n'avait aucun caractère d'évidence. Et puis finalement, un jour, il y a un type génial, un chercheur qui voit exactement la relation très précise, avec même une citation dans un poème qu'on connaissait tous, mais on n'a jamais... C'est comme la lettre volée, quoi. C'était sous nos yeux, mais on n'aurait jamais pensé que c'était le mot peut-être le plus connu de Benjamin, celui qu'on a même mis sur sa tombe, et qui se trouve dans un poème de Pasolini comme une sorte de pastiche, enfin de réponse. C'est quand même incroyable, quoi. Et puis bon, là, je veux pas spoiler, comme on dit au cinéma, hein, parce que ça, c'est vraiment une aventure étonnante de découverte, et qui retombe sur le grand poète et dramaturge Heiner Müller, qui lui-même a perçu quelque chose à son époque. Et tout ça, ça remonte aux années 90, et puis ça a été oublié, quoi, dans les articles de spécialistes, etc. Puis donc j'ai essayé de mettre ces choses ensemble et qui fait cette découverte pour moi, et j'espère pour le lecteur. Donc voilà, ça, c'est l'entrée en matière.
Donc il y a une traduction en italien de Benjamin que Pasolini lit, ouais. Et donc on a la preuve à l'Edgar Poe qu'il l'a lu.
Exactement, exactement. On sait, du coup, on peut rétrospectivement remonter en arrière et retrouver exactement quel livre il a lu, quand, donc quel extrait, et il se met à citer, à reprendre ça de façon poétique, c'est-à-dire de le reprendre des mots et des idées, voire des concepts, hein, mais et d'en faire des éléments de poésie. Donc c'est magnifique, parce que Pasolini est un poète, mais c'est aussi un théoricien. C'est quelqu'un qui a vraiment travailler avec le savoir, hein. C'est quelqu'un qui a au départ a fait des études de philologie romane, vraiment la grammaire historique, quoi. Il est formé à une sorte de tradition allemande de recherche, et tout ça a l'air extrêmement sérieux, mais c'est vrai qu'il aurait pu être seulement un professeur d'université, hein, de même qu'il aurait pu être seulement un cadre du Parti communiste italien.
Hein, donc on est en train de dire que c'est un cinéaste qui a fait 5 ans d'études supérieures,
oui.
Et ce n'est pas si courant qu'on l'imagine, surtout pas dans le cinéma italien.
Et qui lisait les textes en latin et en grec dans le texte, quoi, et qui traduisait, qui donnait des cours de latin, et puis qui a fait une traduction du grec. Il a quand même fait une traduction d'Eschyle, qui est toujours joué aujourd'hui. L'Orestie d'Eschyle, c'est celle que lui a commandé Vittorio Gassman pour le théâtre populaire italien en 1959, et c'est celle qui est le plus jouée en italien, en Italie, depuis qu'il l'a écrite. Donc c'est quand même... Et alors, il l'a faite avec des traductions déjà existantes, mais il l'a fait en écrivain. Voilà, c'est bon, bref. Donc il a cette espèce de culture qui est pas du tout ennuyeuse dans son œuvre, parce qu'au fond son œuvre, elle est tellement faite sur la vitalité et la fulgurance que toutes ces choses sont là. Et puis avec des choses de la vie comme le cinéma le permet, hein, c'est-à-dire travailler avec ce qui est devant soi, avec les gens qu'on rencontre, avec les paysages que l'on aime, etc. Des affabulations se fabriquent, parce que c'est un grand affabulateur, c'est quand même un grand narrateur. Moi, je suis pas sûr que ce soit un romancier au sens technique du terme. Je pense qu'il a toujours un peu détourné la grande forme du roman, mais c'est un conteur. Voilà, c'est pour ça qu'il rejoint Benjamin, d'ailleurs, parce que Benjamin a écrit un texte comme ça qui s'appelle qu'on peut traduire Le Conteur. Et c'est ça, la façon de raconter des histoires comme on le fait depuis très longtemps, et notamment depuis le Moyen-Âge, qui est une chose qui passionne Pasolini. Donc pour répondre à votre question, le livre, d'abord le livre fait près de 900 pages, donc et sur papier Bible, hein, c'est-à-dire on a repris avec Macula, qui est quand même l'éditeur formidable, qui arrive à faire des livres avec moi, qui sont totalement inespérés, quoi. Je connais pas d'autres éditeurs qui est capable de passer des années comme ça. Sur le livre précédent que j'ai fait avec eux, c'était les œuvres complètes de André Bazin. Ça nous a pris des années. On était au moins une dizaine à travailler sur 4 ou 5 ans. On a failli tous mourir tellement le bouquin est énorme. Mais du coup, celui-ci de Pasolini, nous paraît pas petit parce qu'il est, monstrueux, mais c'est possible, quoi. Après cet effort incroyable, l'éditeur a repris le même format, le même papier, pour arriver à mettre en un volume les 960 pages avec des longues pages. Voilà. Donc c'est un énorme travail pour moi, qui est aussi un travail récapitulatif, hein, qui permet ça fait à peu près 40 ans au fond, puisque j'ai commencé tout petit, dès que je suis entré à l'université, j'ai travaillé sur, pas dès que je suis entré, mais dès que j'ai écrit pour la première fois, quoi, un mémoire de maîtrise, c'était sur Pasolini. Et après, c'était tellement prenant et tellement passionnant que j'ai décidé de faire une thèse plus tard sur un autre sujet complètement différent, pour pas être aliéné de Pasolini, parce qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc, Pasolini, c'est comme ça, quoi. On prend tout. J'ai rencontré tellement de gens qui ont le même rapport, des gens de théâtre ou des étudiants ou des gens de littérature. Quand on se met dans Pasolini, on a envie de lire de façon affamée, quoi. On a envie de tout savoir, tellement il a écrit de choses, en plus, tellement il les explique bien, ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est...
Il a des théories sur la pédagogie aussi.
Oui, même sur la pédagogie. C'était un vrai professeur. Oui, bien sûr. C'est presque un théoricien de la pédagogie. C'est vrai qu'il a écrit quelques articles dans
La communication, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas romancier.
C'est sans doute.
Et il est trop clair.
Sans doute.
Il est toujours très clair.
C'est vrai. C'est vrai que non seulement il a été prof, il a été instituteur, il a appris le latin à des élèves, mais ensuite il est devenu une espèce de... Donc ensuite il a été exclu de l'éducation nationale, hein, pour une accusation d'homosexualité dans sa jeunesse. Et du coup il n'a jamais été professeur. Enfin si, après il a été professeur dans un collège privé à Rome, parce qu'il était exclu de l'éducation nationale. C'est quand même énorme. En même temps qu'exclu du Parti communiste, hein. C'est une aventure étonnante, sa vie. Et donc, on pourrait dire, oui, de ce point de vue-là, qu'il est devenu une espèce de professeur sans classe, quoi. C'est-à-dire qu'il a parlé aussi aux médias, non pas comme une vedette médiatique, mais plutôt comme quelqu'un qui toujours expliquait les choses de façon très claire, c'est-à-dire très peu médiatiquement, au fond, hein, parce que les médias ont l'air d'être toujours très clairs, mais en réalité, ils ne sont pas clairs, ils sont simplistes, hein, c'est très différent.
Justement, on peut dire que celui qui travaille sur Pasolini est toujours... stimulé par la richesse du propos. C'est toujours très difficile à expliquer.
C'est vrai.
On a quelqu'un qui va écrire en dialecte, un dialecte qu'il ne parle pas. On a quelqu'un qui perd son frère, qui lui a dit « rejoins la guérilla nationaliste » alors que lui va s'inscrire au Parti communiste. On le prend par n'importe quel bout. C'est jamais simple. En venant, je regardais le livre dans le bus et il reproche aux journalistes de penser qu'ils transposent la peinture au cinéma. C'est pas possible, c'est simple. Et justement parce que Godard vient de mourir, je relisais un article que j'avais écrit sur Godard et je l'ai écrit au moment de Passion. Et donc, c'est des reconstitutions, premier degré de toile, avec une espèce d'agressivité.
Qui est un film assez pasolinien.
Oui, mais en plus, il reconstitue une toile au premier degré avec la musique de Beethoven derrière, aussi au premier, un quatuor à cordes de Beethoven. Donc, c'est la grosse culture bourgeois. On comprend bien l'ironie, mais c'est une ironie à la Rubens, elle n'est pas évidente.
Moi, je dirais que c'est le premier film de Godard vraiment pasolinien. C'est 1980, c'est 5 ans après la mort de Pasolini, et c'est un film qui rappelle l'expérience de la ricotta. La ricotta, c'est un petit court-métrage de Pasolini de 1963.
Qui est au centre de votre livre et sur lequel vous travaillez beaucoup.
Quand je dis petit, pour moi, c'est peut-être le plus grand film de Pasolini. Encore aujourd'hui, je suis en train de travailler...
Parce que c'est une réflexion sur le métier de cinéaste.
Mais oui, bien sûr.
Donc on est dans cette espèce de spirale borghésienne, toujours, ça enclenche toujours sur autre chose. On ne peut pas le prendre, s'il va au Yémen faire un petit film de 3 minutes, on ne peut pas dire, voilà, il est allé au Yémen, il a fait un film de 3 minutes, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Ça ne dit rien du sujet, parce qu'il n'est peut-être pas allé, ce n'est peut-être pas lui qui a tourné, ce n'était peut-être pas au Yémen, et il s'est interrogé pourquoi il était là, etc.
Mais en tout cas, oui, vous avez raison pour Godard. Enfin, en tout cas, pour ce film-là, c'est très frappant. La ricotta, c'est ça, au fond. C'est comme vous avez dit.
Mais il parle bien aussi de Godard quand il parle, par exemple, de la capacité à Godard de filmer des voitures.
Oui.
C'est plus intelligent que tout ce qu'on a lu comme article. La presse est extrêmement médiocre en ce moment. Tout ce qu'on a lu dans nos journaux les plus... qui auraient dû être les meilleurs, c'est quand même très bas de gamme.
Moi, j'ai vu un très bel article sur Alain Tanner, sur la disparition d'Alain Tanner, qui était un très, très grand cinéaste suisse également.
Que Godard avait insulté.
À juste titre,
à mon avis, mais on ne va pas s'embarquer là-dedans. Et donc, oui, donc ça, après le préambule, il y a cette ouverture sur son activité littéraire. Il commence poète.
En effet, la nouveauté de ce livre, c'est qu'il y a une monographie sur Pasolini, écrivain, qui s'arrête néanmoins en 1960, parce que l'idée du livre, c'est quand même d'expliquer en quelque sorte, enfin, peut-être même, je ne l'ai pas dit comme ça, mais peut-être que même c'est l'idée de rebasculer un petit peu les centres d'intérêt, parce qu'on nous dit toujours c'est un poète, c'est d'abord un poète qui a fait du cinéma. Bon, il est évident que Pasolini a tellement bousculé les catégories que c'est pas possible d'en rester là. On peut pas dire c'est ceci qui est devenu cela ou qui fait cela. En réalité, il a transcendé les catégories et il est cinéaste de plein terme, de plein droit. Il est cinéaste, c'est un cinéaste complet. Il a fait des courts-métrages pendant 15 ans, il n'est pas arrêté. Il a fait des films mainstream, il a fait des films plus expérimentaux, il a fait des documentaires, il a fait des films comiques.
Grosse activité de scénariste, on comprend quand même comment fonctionne la machine quand on fait ça.
Alors là, c'est l'autre nouveauté du livre, c'est qu'il y a aussi, j'en parlerai après, il y a un autre chapitre qui fait découvrir quelque chose qu'on connaissait mal, qui est son activité de scénariste. Parce qu'on croit un petit peu à cause de lui. C'est un peu lui qui a refabriqué cette idée. Je ne crois pas qu'il l'ait fait volontairement. Il n'a pas cherché à cacher son activité. Mais il en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Donc on a l'impression qu'en 1960, il a 40 ans. Il est un écrivain très célèbre, déjà. Et tout à fait en place, en tant qu'écrivain, avec une œuvre déjà énorme. Et il devient cinéaste. Et on a l'impression qu'il tombe dans le cinéma comme un écrivain qui ne sait rien du cinéma, qui ne sait pas ce que c'est qu'un travelling, comment s'appelle une caméra, un objectif, etc. Mais comme il le dit lui-même, tout ça, ce n'est pas bien grave, parce que c'est très vite appris. Mais en fait, c'est faux. Il est comme tous les gens qui viennent de la littérature. Il est venu par deux voies qui sont complètement classiques, la critique de cinéma et le scénario. Les gens d'écriture passent par ces deux chemins. Donc, il a été critique de cinéma. Ce n'est pas énorme comme activité, mais néanmoins, moi, c'est la première chose sur laquelle j'avais travaillé autrefois, il y a donc maintenant très très longtemps. Mais j'ai publié ses écrits sur le cinéma qui commençaient par des critiques en 1959 dans un journal qui était vraiment des critiques au jour le jour sur les films qui sortaient. Donc, il a une vraie activité de critique de cinéma qui est évidemment complètement perdue au milieu de son œuvre de critique littéraire. parce que c'est quand même l'un des très grands critiques littéraires de son époque. Donc, la critique de cinéma est une toute petite chose au milieu. Mais si on prend, il y a quand même une logique d'être critique de cinéma avant de devenir cinéaste. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand il est arrivé à Rome au début de la décennie 50, hein, c'est-à-dire vraiment fin 49, tout début 50, en janvier 50 même, il a quitté le Frioul où il vivait. Il est arrivé à Rome et là, il avait quelques contacts. Il avait des livres à faire, y compris des livres sur la littérature populaire, des anthologies qui lui ont rapporté peut-être un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Les poésies, les articles font pas vraiment vivre. Et donc, il a dû travailler assez dur dans une banlieue en prenant un bus qui mettait une heure pour y aller, pour donner des cours. Et assez vite, il a trouvé des moyens de, au bout de quelques années, grâce à Giorgio Bassani, l'autre écrivain très célèbre, Le Jardin des Finzi Contini et des très très beaux romans, Bassani, lui aussi, faisait vivre sa famille en faisant des scénarios. Et il a mis Pasolini dans le coup. Et donc, en 54, Pasolini a commencé son premier scénario et jusqu'en 60, il a fait pendant 6 ans, je viens de faire le recensement pour ce livre, à peu près une cinquantaine de scénarios.
Ah, c'est monstrueux.
Énorme. Et donc, c'est ce qui l'a fait vivre. Au bout d'un moment, il a arrêté de donner des cours dans une école parce qu'il ne faisait plus que ça. Et il rendait ses papiers. C'est quelqu'un qui travaillait comme un chien quand il fallait rendre un scénario.
Et au niveau de son activité de scénariste, il est spécialisé en zonard, comme on dirait aujourd'hui.
Ah oui, enfin, ça, c'est en tout cas...
Ils le prennent pour le parler populaire.
Oui, alors ça, c'est aussi...
C'est très moderne, moi, je trouve. Ouais. C'est vrai, de toutes ses activités, on lui propose d'être journaliste dans tel quotidien pendant 6 semaines, il se met dans le moule. C'est l'époque, ça rend bien l'image de l'époque, ouais. Tous ces intellectuels
alors,
polyvalents.
Ça ne fait pas l'essentiel de ses scénarios, mais c'est ce qui est le plus marquant. Hein. Ouais. Et puis comme c'est plutôt ce à quoi il est associé, c'est-à-dire qu'il est associé à l'usage d'abord du dialecte, puisque là on a sauté la période pré-cinéma qui commence d'abord par de la poésie en dialecte, mais ensuite quand il arrive à Rome, de nouveau il y a le dialecte de Rome, et même, en plus du dialecte de Rome, une langue qui est la langue l'argot, en quelque sorte. Hein. Et donc, il écrit deux romans qui sont des espèces d'expérimentations aussi langagières, hein, à la manière de Carlo Emilio Gadda, c'est qui est son maître, disons, spirituel, hein, celui qui voudrait refaire d'une autre manière lorsqu'il fait du roman ou de la narration. Et donc, là, il travaille sur une langue... voilà. Et donc, il est connu pour avoir fait des romans qui ont eu des ennuis avec la justice parce qu'il y avait des gros mots à l'intérieur. Et il est attaqué parce que on dit merde et un peu plus que merde, quoi. On emploie des mots qui sont des mots crus, qui sont des mots qui ne passent pas dans le langage commun et dans la bourgeoisie, et donc dans la culture officielle. Et il a des ennuis judiciaires dès son premier roman. Et donc, il est connu par une sorte d'aura de scandale qui est très abusive, parce que c'est pas quelqu'un qui a provoqué le scandale volontairement, mais justement parce que, comme il le sait lui-même, c'est complètement politique, c'est-à-dire que ce qui n'est pas supportable à travers la langue, c'est surtout que c'est un petit peuple de Rome ou des alentours de Rome dont personne ne parle jamais. C'est ceux qui sont oubliés, y compris oubliés du Parti communiste, par exemple. Ce ne sont pas des bons ouvriers, ce sont des sous-prolétaires, hein, oui, ceux que Marx détestait, le lumpen prolétariat. Et donc lumpen, hein, en allemand, ça veut dire chiffon. Haillons, habits déchirés en quelque sorte.
C'est pareil, donc les chiffonniers,
on a les chiffonniers de Benjamin, ou de Baudelaire. On a aussi, Baudelaire, revu par, cité par, et étudié par Benjamin de manière géniale. Mais on a aussi son personnage formidable du figurant qui meurt sur une croix dans la ricotta et qu'il appelle son prénom ou plutôt son surnom, c'est Stracci. Et Stracci, ça veut dire exactement lumpen. C'est-à-dire, ça veut dire chiffon, haillon. Celui qui a des habits déchirés, parce qu'il n'a même pas de quoi manger. Et c'est la définition même du sous-prolétaire, c'est-à-dire que son métier, son salaire, ne lui permet même pas de manger. Le prolétaire, c'est celui qui a juste de quoi manger ou faire manger sa famille. Et le sous-prolétaire, par définition, c'est celui qui n'a pas assez. Et c'est exactement ce qui se passe dans la ricotta, puisqu'il prend un panier repas, il va nourrir sa famille avec le panier repas et du coup, il crève de faim.
On a aussi là le grand poète national, en fait, dans le sens où, dans les bidonvilles à Rome, c'est des Italiens qui habitent. Tandis que si on va à Nanterre, puisque vous allez à Nanterre tout à l'heure, il n'y a pas un seul Français dans un bidonville.
Dans le bidonville de Nanterre.
C'est vraiment ce qui marque la différence.
Ah oui, c'est issu des...
Et moi qui suis bruxellois, c'est la même chose. Dans ces endroits abandonnés de Dieu, il n'y avait pas de Belges. C'était parce qu'il y avait quand même des droits sociaux qui existaient.
Enfin, tandis qu'en Italie, c'était l'immigration interne de l'Italie elle-même.
Ils avaient des rapports de classe d'une violence absolument inouïe. Il y avait encore, elle existait encore 30 ans plus tard. Il y a des relégations des endroits punis. On est dans une autre dimension. Et on a en même temps toute cette culture italienne qui rayonne à travers Pasolini.
Et voilà ce à quoi travaille Pasolini quand il arrive à Rome. Mais donc, vous me demandiez la première partie, justement, la différence, c'est qu'on n'est pas encore à Rome. Pasolini n'est pas encore cet écrivain romain.
Il n'est pas encore Pasolini.
Et voilà, il n'est pas ce Pasolini-là. Parce qu'en fait, il est un autre Pasolini qui existe déjà. Et on peut dire, et ça, je crois qu'on est plusieurs à l'avoir écrit, c'est que, en fait, sa vie dans le Frioul, c'est-à-dire jusqu'en 1949, au fond, depuis sa jeunesse, puisqu'il commence à écrire des poèmes pour sa mère à l'âge de 7 ans. Hein, j'étais un poète de 7 ans, comme Rimbaud, a-t-il dit. Ensuite, il a écrit très jeune. On sait qu'il a écrit une pièce de théâtre pour un concours. Alors forcément, c'était un concours fasciste, puisque lui, il est né en 1922. Il est né avec le fascisme. Donc, quand il était petit garçon, c'était un balila. Il avait l'uniforme des fascistes de l'école maternelle. Et puis ensuite, il a eu l'uniforme du collège, puis l'uniforme du lycée, puis l'uniforme des étudiants. Et il allait au ciné-club des gouffes, des groupes universitaires fascistes. Il faisait les concours des littoriales, c'est-à-dire... Et ça, c'est la chose étrange de ce pays, parce qu'il se passait toutes sortes de choses culturellement, un peu sous le manteau, quoi, à l'intérieur de l'obligation fasciste. Et donc, il a fait, à l'âge de 15 ans, il a écrit un premier scénario pour ce que je viens de dire. Et ensuite, il a écrit une pièce de théâtre, très jeune aussi. Et puis après, il a créé une première revue, une deuxième, puis une troisième. Et donc, dans le Frioul, il a commencé à écrire des poèmes. Il a publié un compte d'auteur. Et ensuite, il a commencé à apprendre le frioulan et même les frioulans, c'est-à-dire les différents dialectes d'un village à l'autre. Il y a même un très beau livre de lui qui s'appelle « Où est ma patrie ?». Et dans « Où est ma patrie ?», chaque poème est d'un frioulan différent. C'est magnifique comme idée. On est en plein, on nage dans le plurilinguisme, cette fois fondamentalement, dans l'organisation même du recueil. Et c'est une chose du côté de Dante plutôt que du côté de Pétrarque. Donc Pasolini est toujours du côté de Dante, qui est pour lequel il a une très grande admiration, pour lequel il a cherché à faire tout au long de sa vie finalement des parodies, des pastiches. Hein, la divine Mimésis, par exemple, l'un de ses poèmes en prose, rappelle la Divine Comédie, mais je crois que jusqu'à Salo, on a des relations évidentes d'une possibilité de parodie, de reprise, de recommencement de la Divine Comédie, par exemple. Donc il y a, et notamment, fondamentalement, dans cette idée de l'éclatement des langues et du doublement des langues, du fait qu'il y a toujours deux langues et qu'il y a une relation de tension entre plusieurs langues possibles et que les hommes ne parlent pas une seule langue. Donc on a toute cette expérience et on peut résumer la chose en disant que tout de même dans le Frioul et en 49, alors qu'il n'a pas encore 40 ans, Pasolini a fait toutes les expériences de Pasolini. Donc il est déjà Pasolini en quelque sorte. C'est-à-dire tout ce qu'on va connaître après par des choses qui nous sont plus connues, plus célèbres, en réalité, dans le Frioul, il les a toutes faites. Il a déjà écrit du théâtre, il a déjà fait de la poésie, il a déjà écrit des romans, il a
Il est déjà narcissique, il a déjà créé son personnage, il s'est déjà dédoublé.
Alors, son personnage, oui, ça, on le retrouve, disons, c'est le personnage de Pasolini dans ses lettres, hein, par exemple. Là, je viens de sortir, là, le quatrième épisode de la chronique que j'ai faite exceptionnellement cette année, là, de centenaire de la naissance de Pasolini et non pas de sa mort, dans En attendant Nado, hein, qui est cette revue de critique littéraire en ligne. Et j'ai appelé ça Siamo tutti pasoliniani, parce que le jour où j'ai fait la première, je revenais d'une manif où on criait Siamo tutti antifascisti. Les gens crient ça aujourd'hui. Et donc, je me suis dit Siamo tutti pasoliniani, c'est parfait, quoi, pour l'année Pasolini. Et donc, j'ai fait quatre recensions de livres qui sortent à l'occasion de ce centenaire. Et la dernière, c'est sur la correspondance, parce qu'il y a une nouvelle correspondance qui vient de sortir de 1300 lettres, donc avec beaucoup de lettres nouvelles. Et effectivement, on a ce personnage qui n'est pas un personnage fabriqué, hein, mais une relation à lui-même qui est, dès le début, très perceptible.
Ouais. Et je voudrais juste dire aussi sur le fascisme en général. Votre livre est très stimulant là-dessus, ça ramène à plein de choses. Le fascisme italien est aussi très spécifique par rapport aux autres totalitarismes. Par exemple, le rapport à l'art, le rapport à la question juive, le rapport aux femmes, enfin un tas de choses. Sans vouloir le...
Oui, ça ne le dédouane pas du tout.
Et oui, c'est ça.
C'est tout de même
mais
le premier.
Mais on est quand même toujours tenté d'y ouais. voir une certaine fantaisie. Mais ouais. le film de Bertolucci était bien là-dessus, sur le...
Ouais,
c'est sur le côté...
Je ne suis pas sûr que les historiens disent ça aujourd'hui, ouais, parce qu'on revient beaucoup sur...
Il était idéologue et puis il le rejouait carré. Uh-huh. Mais on tuait des gens quand même.
Ah,
mais
et puis c'est aussi le premier historiquement.
Mais
c'est
le dernier livre que j'ai lu, c'est sur l'antisémitisme. Par exemple, comme ils y arrivent qu'en 44, quoi. Enfin, c'est très compliqué. Il a une maîtresse juive et tout. Je veux dire, on prend n'importe quel bout. Et moi, je suis du côté de l'art. Donc là, c'est vraiment aussi très, très compliqué. Enfin, il y a Marie qui, depuis le départ, on est dans des choses.
Sur le fond
de l'affaire. Sorel, ou je sais pas.
Sur le fond de l'affaire, il faut lire les romans de Giorgio Bassani.
Ouais,
c'est là que c'est le plus. Et puis, la pression
et
des
puis,
fascistes.
Quand on pense que Gada a écrit sous le fascisme, et puis qu'on le lit, et puis que ça a été publié, enfin, on est quand même dans une autre dimension. On va faire une petite pause musicale, merci.
Thank you.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et je suis avec Hervé Joubert-Laurencin. On parle du Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste. Le livre s'appelle Le Grand Chant, qui est paru aux éditions Macula. Et on vient d'entendre un petit morceau de musique qui rappelle à certains d'entre nous quelque chose. Et je veux dire que votre chapitre sur Salaud est extraordinaire et mériterait un livre à lui tout seul. Il est très très riche et extrêmement stimulant et renverse un certain nombre de clichés, d'idées à première vue qu'on pourrait avoir sur le film. Donc on disait qu'il y avait dans le livre, parce que l'enjeu c'est le livre, bon, Pasolini restera Pasolini, donc c'est un livre en papier bible qui est assez lourd et en poids et qui vient de sortir et qu'on recommande, que La vie est un roman recommande chaudement à tout le monde, allez le voir dans une librairie près de chez vous. Et donc on a parlé du début qui parle de littérature, ensuite le centre, enfin il y a un fort chapitre sur l'activité de Pasolini scénariste, et après on parle des films, il y a un grand développement sur la ricotta, et après on voit le Pasolini tiers-mondiste et bon, et ça finit sur Salaud. Il y a aussi plein de choses plus anecdotiques sur, par contre, Pasolini a un procès, par exemple, il y a l'attitude du juge, et donc il y a évidemment l'assassin de Pasolini, c'est traité à la fin, donc on a les aspects qu'on a normalement dans une biographie, avec un état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur tel sujet. Et je veux dire, je suis très admiratif de votre chapitre sur Salaud, comme vous défaites complètement mais certains lieux communs qui se sont développés depuis et qui ont sclérosé l'approche du film. Là,
c'est un travail
stimulant. Oui, évidemment. Cette idée que, par exemple, c'est un film masochiste plutôt que sadique est extrêmement stimulante. Il y a beaucoup de choses stimulantes dans le livre. Le rapport au tiers-monde aussi, votre vision de Pasolini tiers-mondiste est vraiment aussi très, très excitante.
Oui, oui, ça le rapproche de Glauber Rocha, qui considérait qu'il était le cinéaste brésilien, qu'il était beaucoup plus tiers-mondiste et que c'était lui le vrai tiers-mondiste et qui était lui-même dans le tiers-monde et développant des esthétiques de la violence et de la faim qui étaient profondément tiers-mondiste et que Pasolini finalement avait quitté l'affaire. Il était extérieur. Mais il n'empêche qu'il l'a reconnu, enfin, et il a reconnu dès le début son Christ. Là, j'aime beaucoup ce que dit Glauber Rocha, qui était aussi un très grand écrivain de cinéma, au fond. Il a écrit il y a au moins deux livres entiers des critiques de Glauber, qu'on appelle Glauber par son prénom au Brésil, sur les films des autres. Et sur Pasolini, franchement, c'est, pour y avoir travaillé un peu, c'est très très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le début où il dit que le Christ de Pasolini, donc en 64, le Christ de Pasolini, donc de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est le Christ du tiers-monde, justement. C'est le Christ tiers-mondiste. Alors, parce que Glauber Rocha a une admiration pour Buñuel, sans borne pour Buñuel. Hein. Je ne sais plus, il a écrit un article dont le titre est très drôle, c'est les commandements de notre Seigneur Buñuel, quelque chose comme ça. Et donc, il dit Buñuel a inventé le Christ anarchiste et Pasolini a inventé le Christ tiers-mondiste. j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, il y a effectivement une relation au tiers-monde qui est d'une époque, mais pas seulement d'une époque. Mais c'est surtout, c'est pas tellement d'ailleurs un chapitre sur le tiers-monde que j'ai fait qu'un chapitre sur ce que Jean-Claude Biette avait appelé les appunti. Les appunti, c'est-à-dire les notes. Hein, en italien, ça veut dire notes. Et il y a plusieurs films de Pasolini qui s'appellent Appunti per un'Orestia di Africana, c'est-à-dire carnet de notes pour une Orestia africaine, Appunti per un film sull'India, c'est-à-dire notes pour un film sur l'Inde. Et puis après, il y a des scénarios qui n'ont pas été tournés, mais qui s'appellent aussi Appunti per un poema sul terzo mondo, par exemple. Note pour un poème sur le tiers-monde, note pour un poème de l'ordure sur une grève des éboueurs à Rome, dont dont il nous est parvenu quelques minutes maintenant, même plus que 3 minutes, hein, mais qui n'a jamais été monté, jamais terminé. Donc on a des surprises comme ça. Et il y a beaucoup de films qui s'appellent Notes pour un film à faire. Et ça, c'est une invention de Pasolini assez géniale qui a été reprise parfois, y compris par Godard à un certain moment quand il fait le scénario du film Passion. C'est un peu cette idée, la poursuite de cette idée du film qui pourrait exister avec un autre film. C'est-à-dire qu'on fabrique un film pour faire une sorte de scénario d'un film futur. Et Pasolini a fait ça plusieurs fois. Film sur un film à faire. Et en tout cas, tous ces films qu'on pourrait considérer comme des documentaires, je trouve que le terme de documentaire, finalement, est trop catégorisant, trop pauvre pour rassembler tous ces films.
Il sous-entend une objectivité qui n'y est pas.
Par exemple, même si l'objectivité, elle est là, hein, au fond, mais...
C'est pas le jeu.
Elle est là, mais la subjectivité est dans tous les documentaires aussi. Donc, il y a effectivement une idée toute faite du documentaire qui fait que c'est trop pauvre pour exprimer ces films de Pasolini.
Les films de Pasolini ne sont pas informatifs.
En noir et blanc, parfois en 16 mm alors qu'il est déjà passé à la couleur et qui fait des films de grosses productions de fiction qui ne sont pas de fiction. Donc tous ces films de, parfois on dit non-fiction, mais moi je déteste les termes à l'envers, hein, parce que ça veut jamais rien dire, les termes à l'envers. Donc pour moi c'est pas la non-fiction de Pasolini, donc mieux vaut les appeler d'une certaine manière, on les appelle les appunti, voilà. Et on a une chose qui sont une série de films, franchement, en parallèle de tous ces autres films, qui sont en noir et blanc, et qui sont des films passionnants. La Rabbia, La Rage, plein de...
Votre livre m'a rappelé l'intelligence des débats qu'on avait, le niveau moyen dans les années 70, mm-hmm. où par exemple, un séminaire universitaire ou des choses comme ça, le travail qui était fait par les participants et la qualité des débats qu'on a perdu, c'est un moment de domination des sciences humaines.
Vous avez raison de parler de débats, parce que c'est des films débats aussi.
Je veux juste dire un truc sur Pasolini tiers-mondiste, c'est lié à la situation italienne. Par exemple, les Italiens, avec le futurisme italien, c'est une apologie de la révolution industrielle. Ce qui est d'une très grande naïveté. Parce qu'en Angleterre, on a Dickens. On ne peut pas faire l'apologie de la révolution industrielle. Partout, il y a de la sidérurgie, que ça soit dans l'Est de la France ou en Belgique. Qui sait qui va aller faire de la révolution industrielle? Partout, il y a des colonies d'exploitation. Comme le Congo belge, par exemple, ça veut dire qu'on ramène des matières premières qu'on transforme. Ce que l'Italie n'a pas, même. C'est une puissance coloniale extrêmement minable et ridicule. Et donc, ça explique la qualité, le rapport non paternaliste, le rapport non hautain qu'a Pasolini avec ces gens. Il y a aussi la question de l'homosexualité, bien sûr.
C'est vrai.
D'être en marge depuis le début. Mais il y a des choses comme ça qui sont très spécifiques.
Vous avez raison,
votre livre nous rend de nouveau. Nous redonne l'alacrité de ces débats qu'il y avait, qu'on a complètement perdu. Maintenant, on n'est plus que dans des histoires d'opinion un peu globales, comme ça, sans aucune analyse.
C'est vrai.
Et sans goût pour les choses. Parce qu'aussi, sur le fait de Pasolini provocateur ou pas, il aimait quand même beaucoup provoquer dans le... Enfin, c'était sa définition de l'art. Il a une vision totalement romantique de la pratique artistique. Il faut que ça fasse mal à la fois à celui qui fait l'art et à celui qui le reçoit. Ou sinon, c'est mort. Et donc, quand il tourne un plan, il va chercher comment on le fait pas. C'est dans ce sens-là qu'il ressemble à Godard à sa façon.
Oh oui, oui et non. Je ne suis pas sûr qu'il ressemble beaucoup à Godard. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Il ne ressemble pas. Mais il n'est jamais mainstream.
Mais c'est vrai. Mais ça ne passe pas par un refus, disons, transgressif du code. Et il y a quelque chose de transgressif qui est plus profondément en passant justement par une sorte de classicisme, mais en le modifiant de l'intérieur en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi... c'est pas comme il trouvait que c'était gestuel Godard, vous voyez. Donc lui c'est pas gestuel au sens où c'est pas immédiat extérieur, c'est profondément ancré, c'est-à-dire qu'il faut que le rejet du code soit profondément ancré et pour ça il faut s'ancrer dans le code. Enfin ouais, c'est un peu toujours comme ça Pasolini, hein, c'est toujours le S'il est hérétique, il se dit hérétique. Hein, il a utilisé ce mot pour se définir. Pourtant, c'était pas un religieux du tout. Donc, hérétique, au fond, ne veut rien dire. Mais
là aussi, ça se discute.
Voilà.
C'est pas
mais
religieux.
Ça veut dire quelque chose, je crois, d'un point de vue non religieux. Ça veut dire que pour être dans une sorte de subversion, il faut d'abord être pleinement à l'intérieur. L'hérétique, pour moi, dans la religion, c'est celui qui est tellement saint, en quelque sorte, qu'il creuse à l'intérieur même de la religion. Et en creusant, là, il fait un trou qui est un trou sans fond, quoi, qui est beaucoup plus violent que de se mettre à l'extérieur et d'être, disons, anticlérical, hein, l'anticléricalisme à la française. C'est pour ça que parfois, Pasolini n'est pas compris de la France, parce qu'il n'a pas ce rejet direct, brutal, de l'anticléricalisme dans le rapport à la religion.
On n'a pas la même histoire.
Il est à l'intérieur, et à l'intérieur, il a foré, en quelque sorte, la chose pour... C'est largement autant subversif, hein, par rapport à la religion, autant inassimilable par la religion. Et pourtant, moi, j'ai rencontré des religieux qui adoraient Pasolini. Hein.
On prend Don Camillo...
Comment ? Don Camillo.
Il occupe les deux postes. Il est à la fois le maire communiste et le prêtre.
Le maire, c'est Pépone.
Oui, mais je veux dire, lui, il
vous voulez dire
dans
Pasolini,
les films,
Pasolini c'est Pépone
il occupe les deux parce que c'est le peuple.
Ouais. Alors c'est compliqué.
On ne peut pas en France dire que la religion, c'est le peuple. Ouais. On peut en Italie.
Oui, bien sûr. Oui.
Surtout si on y ajoute le Parti communiste.
Moi, je ne prendrais pas Don Camillo comme point de comparaison pour Pasolini.
Je ne l'ai pas revu.
mais vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que les films, qui sont des films aimables, hein, de coproduction franco-italienne, en fait, sont tirés de livres best-sellers en Italie, qui ont été écrits par le type qui a fait la deuxième partie de l'Arabia. C'est-à-dire le point de vue de droite, voire même d'extrême droite, hein, Pasolini a absolument détesté et condamné.
Bon, ça éclaircit le champ, quand même. Ça a même une lumière sur le champ.
Ouais.
Et donc, Salo, là, c'était un nouveau travail que vous avez fait pour ce livre ou...
Oui, non, c'est un livre que j'avais fait, qui a disparu et que j'ai repris et modifié un peu. Donc, c'était un travail en soi, oui. Et puis, j'avais un premier livre dans lequel j'avais déjà fait... En fait, j'ai fait deux fois de suite 100 à 150 pages sur Salo, ce qui est un travail violent. Parce que la première fois qu'on voit Salo, c'est très dur. La deuxième fois, c'est très dur. La troisième fois, ça commence à aller un peu mieux. Puis quand on voit Salo au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est un magnifique film d'abord, et que c'est très difficile de le savoir dès le début parce que c'est pas un film aimable, il est pas fait pour reprendre du plaisir immédiat comme ça. C'est un film qui fait mal, qui a donc quelque chose de masochiste, hein, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est ce que je pense, et donc masochiste aussi pour le spectateur. Le spectateur maso peut supporter facilement Salo plus que les autres sans doute, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit. Moi, je fais cette comparaison en disant que peut-être dans X décennies, on étudiera Salo comme aujourd'hui on étudie la Divine Comédie pour Dante. On se pose plus la question de savoir si la Divine Comédie, ce ne sont que des tortures dégoûtantes, hein, au fond, parce qu'on peut aussi rejeter Salo du revers de la main très vite en disant ce ne sont que des tortures dégoûtantes, c'est de la provocation pure, on nous montre...
Mais il y a plusieurs Sades aussi, donc c'est très,
voilà,
très riche.
Alors pour Sade, c'est un autre problème.
Il y a différents Sades, donc c'est de la... Quel Sade on choisit.
C'est ça.
Il y a aussi, au niveau du cinéma en général, c'est un système de trilogie chez Pasolini. Ce que vous détachez, c'est chaque fois les films vont par trois. On va voir trois tragédies grecques, trois récits.
Trois films romains au début,
trois
avec Harry Cotin.
Voilà, alors, je vous laisse
la première
ça.
Trilogie que j'ai. En fait, c'est Pasolini qui a parlé de trilogie à la fin de sa vie. C'est-à-dire, quand il a commencé à vouloir faire Salo, juste avant de commencer Salo, il a publié les scénarios de ses trois films précédents. Et ces trois films précédents avaient un rapport entre eux évident, hein, de gaieté, de sexualité, de gaieté,
c'est ce qui avait bien marché commercialement.
Voilà, en plus, c'est des films commerciaux. Et donc, qui ont eu d'ailleurs un public énorme.
Énorme.
Et il les a appelés la trilogie de la vie. Mais chose que je remarque, c'est que jamais à l'avance, il avait dit qu'il allait faire une trilogie. Il l'a su à la fin. Et jamais il n'avait donné ce nom. Donc il n'a donné ce nom que pour le condamner. puisqu'il appelle ça la trilogie de la vie. Et dans le même article, il dit « J'abjure la trilogie de la vie. Je ne peux plus faire ce genre de film. Et donc, je vais faire Salaud. »
Et ça marche, d'ailleurs, qu'il a réussi son coup.
Et là, on comprend bien que la trilogie, c'est pas, c'est à la fois ce qu'il est poussé à faire en quelque sorte, mais c'est pas son rythme. Il n'est pas hegélien, par exemple, thèse, antithèse, synthèse.
Il pourrait être christique.
Ça ne me va pas.
Le bon larron et le mauvais larron, ça lui va assez bien. Avec
voilà. Ce qu'il faut, c'est des oppositions irréconciliables. Ouais. Pasolini reste dans les oppositions et ne veut pas passer au stade de la synthèse, quoi. Donc, il refuse la synthèse. Et du coup, la trilogie est là pour être contestée, en quelque sorte. Hein. Donc, elle est contestée soit par le binaire, par le deux. Hein. J'appelle ça l'amphibologie contre la trilogie. Et puis aussi, il y a un autre truc un peu plus mystérieux, mais je suis en train de travailler là-dessus. Pasolini utilise un terme qui apparemment absurde. Il dit la quatrième partie de la trilogie. Il utilise ça dans son théâtre.
Tétralogie comme Wagner.
Alors voilà, une tétralogie, c'est une tétralogie. Il y en a quatre, mais il ne dit pas quatrième partie de la tétralogie. Il dit la quatrième partie de la trilogie. Donc c'est quand même très bizarre. Ça veut dire que en fait c'est 3 plus 1. Voilà. Alors je crois vraiment que ça vient de ça que comme il a traduit aussi une trilogie, la trilogie d'Eschyle de l'histoire d'Oreste, hein, toute l'Orestie, comme je le disais au début, on sait que dans l'Antiquité, il y avait une quatrième partie qui était jouée pendant les grandes Dionysies, c'est-à-dire qu'on jouait les trois avec les mêmes acteurs qui jouaient les trois tragédies successives et puis ils jouaient également la quatrième où c'était une histoire de satire. C'était le drame satirique. Et le drame satirique, c'était comique, grotesque, parodique, et ça reprenait, ça continuait la tragédie, mais sous une forme terrible, quoi. Parce que le rire s'ajoutait à la tragédie. Et je crois qu'il a poursuivi cette idée qu'il connaissait forcément, puisque il connaissait, il traduisait, il lisait les auteurs de l'Antiquité. Donc c'est une chose qui.
J'ai été très touché par le fait qu'il ait embrassé Gueorgui Lukács.
Ah, c'est pas mal cette histoire.
Je savais pas, c'est extraordinaire. Et puis il faudrait parler de Gramsci aussi, hein, parce que sur l'aspect non dialecticien de...
Alors, il n'a pas pu embrasser Gramsci. Hein.
Ne pas vouloir être comme les autres, ça c'est vraiment formidable dans cette époque, mais il faudra se ressouvenir de ce qu'étaient les années 60, là. Ne pas vouloir être dialecticien et puis faire référence à une pensée binaire, ce qui ne veut a priori rien dire, mais enfin bon, c'est quand même prendre une position. Il y a toujours ce côté... être autre, tout en fréquentant Moravia ou je sais pas quoi, des gens que je trouve quand même mainstream. Mais
un jour je l'ai résumé comme une sorte de lutte contre soi-même, hein, c'est-à-dire et on peut le dire de façon beaucoup plus positive que ça, c'est pas du tout autodestructeur, c'est vouloir être un autre.
Et quand il dit que la femme de Moravia, je ne me souviens plus de son nom.
Oui, Dacia Marini peut-être, Elsa Morante.
Elsa Morante qui lui a pris le plaisir.
La légèreté,
c'est bien.
C'est beau.
Ça, c'est très, très beau. Alors là, on retrouve Benjamin du début. Ouais. Là, et Gramsci aussi, c'est quand même, par rapport à ce que nous, on vivait, par rapport aux autres communismes européens, c'est sans commune mesure. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est vrai. Ça n'a strictement rien à voir. Et même leurs gauchistes étaient extrêmement différents. Enfin, les autonomes italiens, par exemple, c'est tellement différent de toutes les caricatures qu'on a vues ici. Mm-hmm. Donc on est dans Lukács, tout ça, c'est...
C'est pourquoi c'est la relation à Benjamin ne pouvait qu'exister.
Ouais.
Parce que son marxisme est tellement poussé qu'il en arrive jusqu'au rêve, quoi.
Parce que ça, en France, c'est arrivé massivement, hein, ce Benjamin, il y avait Adorno et Horkheimer qui avaient été massivement traduits, et Benjamin est venu à la fin.
Et oui, bien sûr, dans un second temps.
Par Dibier, Georges Cholet, enfin, il faudrait voir la généalogie de ce qui a été traduit, qui, par qui, quand, comment, etc. Mais on est... enfin, c'est l'histoire de l'édition française, c'est encore autre chose. Et donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a manqué qui vous paraît essentiel dans le livre?
Je ne sais pas, moi. C'est à vous de le dire.
C'est vous le lecteur. Bah, c'est une somme inépuisable. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page et c'est intéressant. C'est très, très riche en approche. Oui, c'est assez étonnant, par exemple, de redécouvrir, par exemple, tous ces voyages. Le Pasolini en Inde... Et je sais pas, si
oui, Pasolini voyageur, c'est une belle histoire.
Et ouais. On est chaque fois dans un autre contexte. Si on est avec Louis Malle en Inde, par exemple, c'est assez facile à expliquer.
C'est vrai.
On va être compris. Si on est avec Pasolini, tout devient tout de suite beaucoup plus compliqué.
C'est pour cette raison que ça m'a paru essentiel de faire ces espèces d'annexes qui permettent de s'y retrouver dans la vie de Pasolini, et notamment avec ses voyages. Quoi. Quand est-ce qu'il voyage? Où est-ce qu'il voyage? À quel moment? Et qu'est-ce qu'il écrit? Et qu'est-ce qu'il filme en même temps? Il y a quelques pages à la fin qui essayent de résumer tout ça, ainsi qu'une liste des... c'est pas des figurants, mais j'appelle ça la rime des visages et des voix, c'est-à-dire tous les acteurs qui reviennent, acteurs souvent non professionnels, qui reviennent au moins deux fois, et parfois jusqu'à 4 à 5 fois dans ses films, et qui tiennent des rôles toujours... qui font sens. Quoi.
Ouais, c'est comme une exégèse
très...
biblique.
Ah ouais, et puis ça fait un monde aussi.
Il y a aussi un peuple. Sur lui, les 3-8 qu'il fait, 6 heures de drague, 6 heures de cinéma et 6 heures d'écriture. Il est d'une activité...
Je crois qu'il dit 8, ça fait 8 fois 3, 24. Et là, il ne dormirait pas, donc il s'agit bien d'un...
Oui, c'est 3 fois 6. Il faut qu'il laisse un quart pour dormir.
Non, justement, il dit 3 fois 8, et c'est donc un mythe. Parce qu'en fait, on sait que Pasolini dormait beaucoup.
Ah.
Et oui, il fallait qu'il se lève très tard. En s'étant couché tard, il fallait qu'il se lève très tard.
Et donc, pour l'exégèse, il y a aussi le fait qu'il joue quand même la comédie, qu'il occupe un rôle. Donc, c'est formidable. On peut chaque fois comparer le dire avec l'effectivité.
Oui.
L'intention avec le résultat.
C'est pas forcément une comédie, mais...
Ou le commentaire après coup avec les intentions de départ. Enfin, il y a de quoi gloser.
En tout cas, ça vaut le coup de... Vous avez dit biographie. Hein. Moi, je ne savais pas que j'avais écrit de biographie, mais à force de l'entendre dire, j'arrive à en être un peu convaincu. C'est-à-dire qu'il y a
une forme... Vous l'appelleriez comment, vous ?
Moi, pour moi, c'est une monographie. C'est-à-dire, ça parle surtout de... Ça étudie les œuvres, toutes les œuvres. Et comme c'est dans un ordre chronologique, effectivement, et que ça donne beaucoup de détails sur sa vie aussi, effectivement, vous avez raison, c'est aussi une forme biographique. J'ai fini par m'en convaincre. Hein. Mais...
Je ne le vois pas au niveau psychologique, si c'est ça qui fait problème. Mais je le vois comme la construction d'un personnage, mais au niveau historique. Mmh. C'est très riche en histoire. Moi qui suis très peu
nostalgique... Vous avez raison, c'est comme une biographie intellectuelle.
Ouais, moi qui ne suis pas du tout nostalgique, mais là, j'avais quand même un goût qui revenait, une saveur, des pâtes à Rome, à la Piazza d'Espagne, dans un petit restaurant. Enfin, il y avait un goût ou une manifestation. Par exemple, la première fois que j'ai entendu chanter Bella Ciao au début des années 70, que j'étais en Italie, et j'ai découvert une foule qui chantait juste. Et c'était très, très beau, très enthousiasmant. On pleurait pour une chanson de lutte, quand même. Et c'était vraiment très beau, très mélodieux. Et donc, nous allons nous quitter. Je vous remercie d'être venu. J'espère que ça marchera bien et que vous aurez une presse très riche. Donc, c'était Hervé Joubert, Laurent Saint pour Le Grand Champ. Merci. La vie est un roman. Aligre FM 93.1.